Deuxièmement, je crois que l'on peut opposer aussi la dire vrai parésiastique à un autre mode de dire vrai qui a été très important dans l'Antiquité, important pour la philosophie antique et plus important même sans doute que les dire vrais prophétiques, c'est le dire vrai de la sagesse. Vous savez que le sage, et en ceci d'ailleurs il s'oppose au prophète dont on vient de parler à l'instant, à la différence du prophète, le sage parle en son nom, en son propre nom. Et s'il est vrai que cette sagesse a pu être inspirée au sage par un dieu, ou lui être transmise par une tradition, un enseignement plus ou moins ésotérique, il n'en reste pas moins que le sage est présent dans ce qu'il dit, il est présent dans son dire vrai, la sagesse qu'il formule, c'est bien sa propre sagesse, le sage, dans ce qu'il dit, manifeste son mode d'être sage, et dans cette mesure, s'il a bien une certaine fonction d'intermédiaire entre la sagesse intemporelle et traditionnelle et celui auquel il s'adresse, il faut bien dire qu'il n'est pas simplement un porte-voix, comme peut l'être le prophète, il est lui-même un sage, et c'est son mode d'être sage, comme mode d'être personnel, qui le qualifie comme sage et qui le qualifie pour parler le discours de la sagesse. Dans cette mesure-là, présent qu'il est dans son discours sage et manifestant son mode d'être sage dans son discours sage, on peut dire qu'il est beaucoup plus proche du parésiaste qu'il ne l'est du prophète. Seulement, le sage, et c'est je crois ce qu'il caractérise, du moins dans à travers un certain nombre de traits qu'on peut relever dans les littératures anciennes, le sage tient sa sagesse dans une retraite, ou du moins dans une réserve qui est essentielle. Au fond, le sage, il est sage en lui-même et pour lui-même, et il n'a pas besoin de parler. Il n'est pas contraint à parler. Rien ne l'oblige à distribuer sa sagesse, à l'enseigner ou à la manifester. C'est ce qui explique que, si vous voulez, le sage est, je crois, structurellement silencieux. Et s'il ne parle, c'est que sollicité par les questions de quelqu'un ou encore par une situation d'urgence pour la cité. C'est ce qui explique aussi que ses réponses, et en cela alors il peut parfaitement s'apparenter au prophète et souvent imiter le prophète et parler comme lui, ses réponses peuvent parfaitement être énigmatiques et laisser ceux auxquels il s'adresse dans l'ignorance ou l'incertitude de ce que, effectivement, il a dit. Un autre caractère du dire vrai de la sagesse, c'est que la sagesse dit ce qui est, à la différence de ce qu'on trouve dans la prophétie, où, vous savez, ce qui est dit, c'est ce qui sera. Le sage dit ce qui est, mais ce qui est, c'est-à-dire l'être du monde et des choses. Et si ce dire vrai de l'être du monde et des choses peut prendre la valeur de la prescription, ce n'est pas dans la forme d'un conseil lié à une conjoncture, mais dans la forme d'un principe général de conduite. Et je crois que ces caractères du sage, on peut parfaitement les lire et les redécouvrir dans un texte pourtant tardif, mais qui est un des plus riches en renseignements divers, c'est le texte de Diogène Laërce, dans lequel il fait le portrait d'Héraclite. Premièrement, Héraclite vit précisément dans une retraite essentielle, il se maintient dans le silence. Et Diogène Laërce rappelle à partir de quel moment et pourquoi s'est faite la rupture entre Héraclite et les Éphésiens. Eh bien, les Éphésiens avaient exilé Hermodore, un ami d'Héraclite, et ils avaient exilé Hermodore précisément parce que Hermodore était plus sage et meilleur qu'eux. Et les Éphésiens auraient dit, nous voulons qu'il n'y ait personne parmi nous qui soit meilleur que nous. Et s'il y a parmi nous quelqu'un de meilleur que nous, eh bien, qu'il aille vivre ailleurs. Les Éphésiens ne supportent pas précisément la supériorité de celui qui est vrai, ils chassent le parésiaste. Eh bien, s'ils ont chassé Hermodore, qui a été obligé de partir contraint forcé par cet exil, dont les Éphésiens frappaient celui qui est capable de dire la vérité, eh bien, Héraclite, lui, a répondu par une retraite volontaire. Puisque les Éphésiens ont puni de l'exil le meilleur d'entre eux, eh bien, dit-il, tous les autres qui valent moins que lui devraient être mis à mort, et puisqu'on ne les met pas à mort, eh bien, c'est moi qui vais m'en aller. Et désormais, il refuse, alors qu'on le lui demandait, de donner des lois à la cité, car, dit-il, la cité est déjà dominée par une ponera politeia, par une... Ce n'est pas par une constitution, c'est par un mode de vie politique qui est mauvais. Et alors il se retire et il va jouer, vous savez, image fameuse, il va jouer aux osselets avec les enfants. Et à ceux qui s'indignent de voir cet homme jouer aux osselets avec des enfants, il répond, qu'avez-vous à vous étonner, vaut rien, cela ne vaut-il pas mieux que... d'administrer la République avec vous, enfin de mener la vie politique avec vous, met humon politestai. Et il se retire dans les montagnes en pratiquant le mépris des hommes, misanthropone, et quand on lui demandait pourquoi il se taisait, il répondait, si je me tais, c'est pour que vous bavardiez. Et Diogène Laërce se rapporte... que c'est dans cette retraite qu'il écrit son poème, non, son poème en termes volontairement obscurs, afin que seuls les gens capables puissent le lire et qu'on ne puisse le mépriser, lui, Héraclite, d'être lu par tout le monde et par n'importe qui. Bon. Eh bien, à ce rôle, cette caractérisation du sage donc qui fondamentalement se tait, ne parle que quand il veut bien et ne parle que par énigme, eh bien s'oppose le personnage et les caractères du parésiaste. Le parésiaste, lui, n'est pas quelqu'un qui se tient fondamentalement dans la réserve, au contraire. Son devoir, son obligation, sa charge, sa tâche, c'est de parler. Et il n'a pas le droit de se dérober à cette tâche. On le verra précisément avec Socrate. Socrate, qui le rappelle dans l'Apologie bien souvent, il a reçu du Dieu cette fonction d'aller interpeller les hommes, d'aller les prendre par la manche, d'aller leur poser des questions. Et cette tâche, il ne l'abandonnera pas, même menacé par la mort. Il mènera sa tâche jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, dit-il. Alors que le sage se tient dans le silence et ne répond que parcimonieusement, le moins possible, aux questions qu'on peut lui poser, le parésiaste, lui, est l'indéfini, le permanent, l'insupportable interpellateur. Deuxièmement, alors que le sage est celui qui, précisément, sur fond de son silence essentiel, parle par énigme, le parésiaste, lui, doit parler aussi clairement que possible. Et le parésiaste, alors que le sage dit ce qui est, mais dans la forme de l'être même des choses et du monde, le parésiaste, lui, intervient, dit ce qui est, mais il dit ce qui est dans la singularité des individus et des situations et des conjonctures. Son rôle spécifique, ce n'est pas de dire l'être de la nature et des choses. On retrouvera perpétuellement dans l'analyse de la parésia cette opposition entre le savoir inutile qui dit l'être des choses et du monde, et puis le dire vrai du parésiaste qui s'applique toujours, met en question, se pointe vers des individus et des situations pour dire ce qu'ils sont en réalité, pour dire aux individus la vérité qui se cache, la vérité d'eux-mêmes qui se cache à leurs propres yeux, pour leur révéler leur situation actuelle, leur caractère, leurs défauts, la valeur de leur conduite et les conséquences éventuelles de la décision qu'ils prendraient. Le parésiaste ne révèle pas à son interlocuteur ce qui est, il lui dévoile ou l'aide à reconnaître ce qu'il est.